Oui, l'actualité se bouscule, hein, sur notre antenne ce matin. On a reçu la section Hand donc de Montigny-le-Bretonneux. On vient de parler de la course des quatre châteaux avec Stéphane Schubert. Et puis, bah, ce matin, on est content de réaccueillir, on l'avait eu il y a un an et demi, hein, donc Cyril 1. Donc du FC Valais 78, salut, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors comment ça va au FC Valais depuis le début de cette saison?
Bah ça va très bien, ça ouais. Va très bien pour l'instant, ouais, tout se passe relativement bien.
Alors on va quand même rappeler, le foot, c'est une passion d'enfance, hein, à fond dedans depuis des années et des années.
Ah, personnellement c'est depuis l'âge de 6 ans, donc maintenant ça en fait 25, mais ouais. En général c'est un peu tout le monde, voilà. Mm-hmm.
Ça a commencé comment cette passion?
Bah c'est venu parce
que j'avais
un grand frère qui faisait du foot et donc bah, on va le voir jouer, et puis il y a papa qui est dedans, qui est dirigeant. Mm-hmm. Donc on est toujours avec un ballon, et puis on attend l'âge minimum qui est de 6 ans pour pouvoir jouer au ballon, et puis bah voilà, après on...
Et ça commence où?
Ça a commencé à Manilamo en fait.
D'accord, voilà. Oui, juste ce village qu'on a reçu d'ailleurs la saison dernière dans Tribune Foot.
Le village d'à côté, exactement, c'est ça. Ouais, tout à fait.
Et après, donc, le FC Valais?
Bah, le FC Valais, parce que ça se passait pas relativement bien à ce club-là, et puis, il y avait la possibilité de partir soit dans des clubs plus ambitieux, ou soit juste à côté, avec une ascendance et, un petit peu plus forte, quoi. Donc, voilà, on est parti juste à côté, et puis maintenant, on y est depuis 1988, un truc comme
c'est
ça.
C'est bien,
quoi.
Ouais, 20 ans, là.
Voilà, exactement, ça fera 20 ans, là.
Alors, vous êtes joueur et entraîneur?
Alors, je suis joueur en dimanche matin.
Oui.
En senior, en fait, c'est la même licence que le dimanche après-midi, et je suis entraîneur de l'équipe première, donc senior, et entraîneur des Benjamins, et coordinateur technique,
d'accord,
et membre du comité directeur.
Vous êtes un homme à tout faire, quoi, pratiquement.
Pas à tout faire, mais c'est vrai que dans des clubs relativement familiaux, en fait, souvent il y a peu de personnes qui ont beaucoup de casquettes, en fait. Donc après, voilà, c'est
Le foot le dimanche matin, c'est notre façon de concevoir.
C'est un esprit complètement différent. Il y a la compétition, elle existe, hein, ça c'est clair, mais c'est vrai que c'est plus convivial, c'est plus familial, c'est plus voilà, il y a beaucoup plus de solidarité entre les joueurs, et il y a moins l'ambition à long terme de vouloir évoluer dans les divisions supérieures, ça c'est clair.
Bah, on en parlera d'ailleurs, parce qu'il y a un club qui vient de se monter sur Saint-Cerf-sous-Dourdan, hein, c'est juste à côté de Dourdan, justement entre Dourdan et puis Rochefort, et on aura un des responsables tout à l'heure au téléphone. Ils ont un peu eu de mal à monter leur équipe, ils étaient venus nous en parler l'année dernière, il leur a fallu attendre quand même presque un an pour avoir l'autorisation, et là ils viennent de pouvoir monter une équipe depuis le début de saison, donc de dimanche matin, donc on aura un des responsables au cours d'un match tout à l'heure, donc au téléphone. C'est bien ce foot des petits villages?
Ouais, c'est bien, mais il en faut de toute façon, quoi,
parce que c'est
clair que on peut pas non plus avoir constamment que de l'élite, il faut aussi un peu football de masse, etc. Et donc c'est bien qu'il y ait effectivement des petits clubs qui puissent s'associer, ne serait-ce qu'entre villages aussi. Il y a beaucoup de clubs qui font ça, avec 3-4 petits villages qui arrivent à monter une équipe, donc tant mieux. Enfin voilà, plus il y a de matchs, tout le monde est content. Hein.
Alors le FC Valais 78, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une fusion de Chevreuse et de Saint-Rémy. Hein.
Ouais, tout à fait, en fait. Il y avait à l'époque un club de football qui était sur Saint-Rémy-les-Chevreuses qui s'appelait le SRAC. Il y avait l'US Chevreuse qui était donc sur Chevreuse. Et en fait, en 1986, ces deux clubs-là ont décidé de fusionner. À la fois, c'était pour... c'est vrai qu'il y avait une rivalité qui existait, qui était un petit peu...
c'était plus qu'un derby. Ouais.
C'était plus qu'un derby, parce qu'en en fait, il y avait des gens de Chevreuse qui jouaient à Saint-Rémy, des gens de Saint-Rémy qui jouaient à Chevreuse. Ouais. Donc voilà, c'était un peu stupide. Et c'est vrai que maintenant, avec l'intercommunalité... intercommunalité, bah c'est vrai que ça a permis justement d'allier à la fois un nombre de dirigeants et d'augmenter le nombre de dirigeants, le nombre de joueurs et le niveau surtout, quoi, en fait.
Et on le voit de plus en plus, hein, dans les clubs avoisinants maintenant, cette fusion, cette entente entre plusieurs petites communes.
Bah c'est vital, hein, c'est vital.
Cernay-Bonnel.
C'est vital s'il y a des problèmes d'effectifs. Avant, les clubs végétaient dans des divisions inférieures et se débrouillaient en mettant une équipe de temps en temps ou deux équipes de temps en temps. Puis bah comme maintenant, il y a un peu plus de sérieux, un peu plus d'ambition, et puis un peu plus de politiques techniques, etc., en général, du club qui sont mises en place. Donc maintenant, c'est vital d'avoir au moins des équipes dans chaque catégorie, d'avoir l'encadrement nécessaire, parce que c'est pas que rajouter des joueurs, c'est aussi rajouter des dirigeants, un encadrement, etc. Donc c'est intéressant pour tout le monde. Hein.
Donc comme ça, Saint-Rémy, c'est le ballon rond, et puis Chevreuse, c'est le ballon ovale.
Voilà, depuis très longtemps, maintenant Chevreuse est devenu le monde de l'ovalie. Et puis bah ça commence un peu à revenir à la fois sur Chevreuse le fait que le FCV commence à avoir de meilleurs résultats maintenant. Il y a eu, c'est vrai que si on regarde sur 10 ans en arrière, etc., il y a eu un petit creux par rapport au club qui était légitime, etc., et maintenant ça commence à bien revenir eu égard aux résultats sportifs du club.
Alors vous êtes combien cette année de licenciés ou...
Alors on a franchi pour la première fois l'année dernière la barre des 400 licenciés.
400.
C'est depuis la fusion, en fait on était à 310 au moment de la fusion à peu près, et donc l'année dernière on a fini autour de 410 licenciés. C'était la première fois pour le club, hein, de son histoire, donc on en était plutôt fiers. Et là, a priori, cette année, ça confirme, on devrait être même autour de 420 licenciés. Donc on est en augmentation relativement constante.
Combien d'équipes engagées dans les différents championnats, parce que...
Alors, j'ai pas fait le calcul, mais c'est vrai qu'on a des équipes dans chaque catégorie. Ouais. Dans des catégories, on en a même plusieurs. Donc ça doit faire autour d'une quinzaine d'équipes qui, chaque week-end, évoluent à la fois à domicile ou à l'extérieur.
D'accord. Et donc vos joueurs, bah, naturellement, ils viennent de Saint-Rémy, de Chevreuse, et puis des villages aux alentours, d'Ampierre, Senlis,
voilà, en fait,
même Magny-les-Hameaux.
Ouais, bien sûr.
Loin,
on
beaucoup
récupère
plus loin,
beaucoup.
Versailles même.
Ouais, on récupère beaucoup de joueurs. Enfin, en école de foot, on récupère beaucoup de joueurs de Magny-les-Hameaux. Après, c'est des choix qui leur sont propres. C'est vrai que peut-être que l'encadrement sur Magny ne leur correspond pas, ou la politique leur correspond pas, ou parce que peut-être tout simplement qu'ils ont des copains qui sont au club.
Sûr.
Donc après, voilà. Mais en général, on a un tiers d'adhérents qui vient de Chevreuse, un tiers d'adhérents qui vient de Saint-Rémy-les-Chevreuses et un tiers qui vient des autres communes.
Et même les communes avoisinantes, on parlait de l'Essonne tout à l'heure, Boulay-les-Trous, tout ça.
Il n'y a pas
de club de foot, quoi. Les Molières, c'est pas très loin non plus.
Les Molières, il n'y a qu'une équipe vétéran qui vient de se mettre en place cette année. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens. Il y a Gif-sur-Yvette qui n'est pas très loin et qui est un gros club. Même si les résultats ne suivent pas, en tout cas, c'est un gros club et donc à potentiel d'adhérents, et qui viennent aussi de temps en temps, ils viennent tâter un petit peu ce qui se passe chez nous. Donc, on reçoit beaucoup, beaucoup de joueurs des alentours.
Votre vocation, c'est d'être avant tout un club formateur ?
L'avantage, c'est qu'on avait pu mettre en place une politique technique relativement cohérente, à savoir que c'était d'abord développer le football de masse, c'est-à-dire au niveau de l'école de foot, au niveau des équipes jeunes, pour augmenter le nombre de joueurs, etc. Donc de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'entraînement, de faire en sorte que les éducateurs soient de plus en plus diplômés, parce qu'on savait derrière qu'il allait avoir des retombées sur l'équipe première. Donc c'est nous notre priorité, en fait. On n'est pas que sur l'équipe Fagnon et il n'y a pas d'argent au club, c'est pas comme ça du tout, quoi, que ça se passe.
Et donc dans l'équipe Fagnon, ceux qui jouent actuellement sont des joueurs du club depuis très longtemps, quoi.
Ce sont des joueurs du club depuis très longtemps en majorité, et en plus ils sont éducateurs en école de foot.
Ça c'est bien.
Voilà.
Ça.
Donc on fait en sorte effectivement c'est des joueurs qui sont vraiment imprégnés au club. Je pense qu'il y aurait les 4/5e de l'équipe première à l'heure actuelle qui pourraient évoluer en division supérieure, et je pense qu'ils restent parce qu'ils aiment l'esprit tout simplement qui caractérise le club, et en plus surtout ils ont une responsabilité au niveau des jeunes, ou entraînant les 13 ans, les poussins, les benjamins, etc.
Alors on en parle avec toutes les clubs sportifs, mais il y a une valeur éducative au sport, donc le FC Valais c'est pareil, il y a cette valeur éducative importante chez vous.
Parce que en fait nous on est beaucoup attachés surtout par rapport à l'image que véhicule le club. C'est-à-dire que nous, en matière de discipline, on est relativement intransigeant. C'est notre credo depuis très 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 longtemps, en fait. Et donc l'image que l'on peut véhiculer à la fois sur les terrains, à la fois sur Saint-Rémy, Chevreuse ou même à l'extérieur, on est super vigilant. Donc on fait toujours en sorte que les joueurs aient un état d'esprit irréprochable. Donc après, derrière, ça engendre toutes les valeurs fondamentales du sport, surtout qui caractérisent l'esprit sportif, quoi.
Il n'y a jamais eu de gros débordements. Bon, on peut contester des arbitres, tout le monde l'a fait.
Dans le football, ça conteste. Dans le football, ça conteste énormément, mais
tant que ça reste là, c'est
mais
pas grave.
C'est verbal, on va dire. C'est verbal. Il n'y a pas ni de méchanceté, ni de manque de respect. C'est de la contestation. Alors, on va dire que c'est néfaste par rapport au foot, mais malheureusement, c'est fait partie du jeu. Mais ça va pas plus loin que ça. Et ça arrive qu'à partir des catégories de 13, 15 ans, 18 ans. Mais surtout pas en école de foot, en tout cas.
Et justement, au niveau de l'école de foot, on apprend le respect de ses partenaires, de ses éducateurs. On parlait pour le hand tout à l'heure, donc des règles d'être à l'heure aux entraînements, c'est pareil pour le foot.
Nous, on leur donne, grâce à l'intermédiaire du district des Yvelines, qui nous donne en début d'année des petits fascicules, en fait, pour à la fois pour les parents.
Un code de bonne conduite.
Voilà, un code de bonne conduite, exactement. Je sais que notre entraîneur Poussin a fait justement une petite charte cette année, justement pour les enfants et les parents, savoir le comportement qu'ils devaient adopter. Moi qui suis entraîneur des Benjamins, j'applique beaucoup de règles qui sont importantes lors des matchs. par exemple, voilà, c'est un petit détail, mais je sais qu'un enfant de chez nous qui, sans faire exprès, blesse un adversaire, eh ben, je lui interdis de continuer l'action. C'est, quoi qu'il arrive, c'est d'accord. de s'empresser de savoir ce qui se passe, mm-hmm. etc., et de s'excuser s'il a fait mal, et mm-hmm. voilà. Et donc, dès qu'il le fait pas, je le sanctionne, en fait, tout simplement, quoi. Et d'accord. donc, maintenant, c'est rentré tout simplement dans les mœurs. Et même des fois, ça choque des parents qui sont sur le côté, qui lui disent, bah, continue de jouer, etc., pourquoi tu t'arrêtes, alors que moi, je suis plutôt fier que justement, d'accord. tout de suite, il s'arrête, justement, pour savoir si son adversaire a mal, comment il va, etc. Quoi. Mm-hmm.
Donc les résultats sont bons depuis le début de saison, le début de ces championnats d'une façon générale dans toutes les catégories.
Bah, on est plutôt sur une pente relativement positive parce que, bon, à part en vétéran A où on a un peu de mal, maintenant je pense pas que ce soit la vocation du club d'avoir des très bons résultats en vétéran.
Il y en a qui se piquent au jeu quand même.
mais c'est normal, ouais, et c'est normal. Ouais, je pense que même à 40-45 ans, on a toujours envie de gagner quoi qu'il arrive. Ouais. Bon, je pense que ça va revenir très très vite, ouais. Hein, je me fais pas trop de soucis pour eux. Mais c'est vrai qu'en senior, en équipe première, on est relativement sur une pente positive parce que on a pour l'instant fait 5 matchs de championnat, on est invaincu, on est première ex aequo, on est encore en Coupe des Yvelines, donc on n'a pas perdu un match officiel cette saison. Au niveau de nos 18 ans, ils sont aussi dans les deux premiers. Nos 15 ans qui sont en première division sont en milieu de tableau et c'était pas forcément signé d'avance, donc on est plutôt, mm-hmm. plutôt content. Et nos 13 ans, Caracol aussi en tête pour l'instant. Donc ouais, on est plutôt content pour l'instant. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de mauvais résultats au niveau du club. Voilà.
Mm-hmm. Les créneaux donc d'entraînement, c'est tous les jours de la semaine?
C'est tous les jours, ouais. en général, sauf le vendredi. En fait, le vendredi, on laisse le terrain ouais. aux municipalités pour qu'elles puissent effectuer à la fois le traçage mm-hmm. et à la fois l'entretien des terrains, des gazons pour la tonte, mm-hmm. Déstabiliser pour le RC. Et donc voilà, c'est du lundi au jeudi. Samedi et dimanche.
Ouais, avec un seul terrain donc qui est en bas, qui est tout près de la gare, donc RER. Hein, c'est
en
ça.
En fait, on a trois terrains en total. Ouais, ouais. Il y a un terrain sur la ouais. commune de Chevreuse, hein, qui est un terrain d'accord. stabilisé. D'accord. Et sur la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuses, on a un terrain en herbe qui est réservé en général que pour les matchs. Il n'y a pas d'entraînement qui sont effectués dessus. Et il y a notre premier terrain que vous parliez effectivement qui est à côté de la gare. Et lui, c'est vrai qu'il absorbe beaucoup d'entraînement. Voilà.
Ouais. Mais l'officiel des matchs, c'est pas de la gare, non? Le grand terrain où joue l'équipe Fagnon.
Voilà, l'équipe Fagnon joue à côté de la gare de Saint-Rémy, tout à fait.
C'est un avantage, on peut dire. Et en vert, c'est pas.
Bah, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, en fait. Ouais. Et je pense qu'effectivement, c'est plus commode qu'il soit à côté de la gare. Bon, en général, c'est vrai que Chevreuse, le réflexe, c'est de se dire, bah, c'est le rugby le dimanche après. Mmh, mmh. Et le football, c'est à Saint-Rémy. Mais on ouais. commence à avoir beaucoup plus de monde en fait hein, sur le dimanche après-midi.
Ouais. Combien de personnes en moyenne dans lequel ouais, qui est les fidèles quoi.
Je compte pas. Ouais. Après, il y a toujours les amis des joueurs, ouais, les copines des joueurs, les joueurs des joueurs en fait. Parce que comme il y a des joueurs éducateurs, bah ouais. les enfants qu'ils entraînent viennent les voir. Donc je dirais, je sais pas, ça dépend entre 50 et 100 en général quoi. Mais après, ça dépend de l'enjeu du match, ça dépend du temps aussi parce bien que sûr, bah, tout le monde peut pas prendre son temps pour avoir un match s'il fait 2 degrés et qu'il pleut. Mm-hmm. Donc ouais, entre 50 et 100 personnes. En fait,
voilà. Ça doit faire des beaux derbys des fois. Ça vous arrive de jouer Magny, Buc ou Versailles, de faire quelques beaux matchs, quelques beaux derbys?
Bah, Magny, disons qu'ils sont relativement en dessous. Donc
mais sur
en
un fait, match de coupe, on
leur... ouais, ça peut arriver de temps en temps. C'est voilà. vrai que ça nous est arrivé il y a quelques années de les jouer, donc effectivement, ça a ramené pas mal de monde. Maintenant, on a des derbys historiques. Ce que j'appelle historique, c'est à l'époque où le FCV était vraiment beaucoup plus supérieur que maintenant. C'est vrai qu'on jouait contre Rambouillet, c'était un derby relativement historique. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les deux équipes s'affrontaient et là, ça déchaînait pas mal les foules, ça c'est clair.
Mm-hmm. On peut vous rejoindre encore, Cyril, ou alors vous êtes complet et c'est pas possible d'accueillir d'éventuels nouveaux pratiquants?
Bah, on a une chance, c'est qu'en fait, au club, on a relativement beaucoup de dirigeants. Ouais. C'est qu'on est pour l'instant à 75 dirigeants. Mm-hmm. Et donc, au niveau des éducateurs, on est aussi complet. Donc, en fait, pour l'instant, on accueille encore des enfants qui s'inscrivent. Même encore dernièrement, on a reçu des enfants en école de foot. Mm-hmm. Donc, non, on n'est pas complet. C'est-à-dire qu'on peut encore nous rejoindre pour prendre une licence en tant que joueur et quelles que soient les catégories. Quoi.
Ouais. Prix licence, cotisation, c'est de combien?
80€.
80€, ouais,
avec shorts et chaussettes. Ouais. Voilà.
Il
n'y
a que la paire de chaussures à acheter.
Que la paire de chaussures et les protèges tibias à acheter. Le maillot est confié le jour du match et il est repris, bien entendu, après pour le laver. Et toutes les équipes s'entraînent deux fois, sauf les débutants.
Oui, parce que c'est vrai, vous n'avez pas de problème d'éducateur. Hein. Beaucoup de clubs se plaignent d'avoir des problèmes de bénévoles, d'éducateurs. Vous, ce n'est pas votre cas. Hein. Vous l'aviez déjà dit quand vous étiez venu.
Moi, j'avais entendu pas mal de clubs dire qu'ils avaient des problèmes d'éducateurs ou de dirigeants. Et à la fois, la licence, il faut savoir que la licence d'un dirigeant, le club la paye quoi qu'il arrive, comme la licence d'un débutant, comme un poussin. Alors, elle a un prix un peu plus raisonnable. Et il y a beaucoup de clubs qui font payer le dirigeant. Et nous, on trouve ça un peu stupide, à savoir de dire, bah tiens, un dirigeant qui est bénévole va payer aussi sa licence.
Il donne déjà beaucoup de...
Il donne son temps, de son temps. Donc,
de son argent, des fois, même.
Voilà, exactement. Bah oui, pour les transports d'enfants, etc., ou de joueurs. Donc nous, on le fait pas payer. Et en plus, on fait en sorte qu'il y ait quelques manifestations qui puissent lui permettre de rester, de créer un petit esprit convivial entre les dirigeants. Donc on fait des fêtes de dirigeants. Il y a toujours les vœux du président, les galettes des rois et les fêtes de fin d'année où les dirigeants sont gracieusement invités.
Oui, justement, c'est une question qu'on pose souvent, mais c'est important pour souder un collectif, pour souder un groupe, de se réunir comme ça dans des fêtes extra foot.
Moi, je dis toujours qu'avec moins de joueurs, avec moins de joueurs, le club vivra toujours. Sans entraîneur, le club pourrait vivre. Sans président, il sera jamais content si je dis ça, mais le club pourrait vivre. Mais sans les bénévoles, le club ne vivrait pas. C'est les dirigeants qui font le club pour moi. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Mais justement, tiens, il y a le SPQ, ce que vous devez connaître.
Je connais de nom,
qui organise une grande soirée country. C'est la semaine prochaine. Donc il reste encore des places. Vous pouvez appeler monsieur Le Mercier au 06 72 28 45 40. Voilà, donc vous voyez, club de foot du dimanche matin, mais qui organise sa grande soirée annuelle avec, je crois, également la section tennis. Donc, les résultats, on l'a dit, sont bons. Vous avez des tournois cette fin de saison?
Oui, on a des tournois. Alors, on a une coutume en général, c'est que cette année, le championnat va finir le 31 mai par rapport à l'Euro qui va se disputer. Donc, en fait, le district finit toujours un petit peu plus tôt les championnats. Et donc, sur le premier dimanche qui arrivera, donc on sera autour du 7 juin ou du 8 juin, je ne sais plus exactement la date, il y aura le premier tournoi des 13 ans et des 15 ans. Le dimanche d'après, ça sera le tournoi des CDM. Ensuite, ça sera le dimanche d'après le tournoi des vétérans. Et en fin de saison, ça sera le tournoi des seniors. Sans oublier que le 1er mai et le 8 mai sont deux dates consacrées à nos tournois Poussin et Benjamin. C'est-à-dire qu'avant, les tournois se faisaient ensemble le 1er mai, Poussin et Benjamin. Et depuis les dernières, et ça s'est très bien passé, on accueille beaucoup plus d'équipes, 24 équipes en Poussin et 24 équipes en Benjamin. Et on fait ça sur deux dates différentes, le 1er mai et le 8 mai.
Et je me souviens que vous avoir eu au téléphone il y a un peu plus d'un an. C'était l'anniversaire de votre club.
C'était en plein mondial. Exactement.
Plus.
C'était le lendemain du quart de finale France-Brésil. Et on faisait les 20 ans du club, la fusion en fait. Et donc, ça s'était bien passé.
Vous allez mettre des écrans géants à vos stades. Vous allez voir les matchs ensemble sur l'Euro, comme ça s'est fait pour le mondial. Vous mettez comme ça des écrans et puis
on a la chance
vous regardez les matchs ensemble.
On a la chance d'avoir une télé au niveau de notre clubhouse. Donc oui, ça peut arriver de temps en temps qu'on regarde les matchs tous ensemble. Maintenant, c'est pas forcément systématique.
Oui, c'est sûr que c'est pas toujours évident.
Voilà.
Donc les équipes de jeunes, est-ce que les jeunes restent chez vous? Les équipes de jeunes qui commencent, est-ce que la plupart des jeunes restent dans votre club ou bien ça va, ça vient comme dans beaucoup de clubs?
Depuis quelques saisons, la Ligue a mis en place un système qui est, en fait, on a jusqu'au 15 octobre pour rendre les licences des joueurs qui ne re-signent pas. Et j'étais super surpris de voir que on perdait un tiers de nos joueurs.
Et en fait, il y a
un brassage qui est relativement naturel. Alors, on n'a pas l'impression de perdre beaucoup de joueurs, mais en comptant tous les joueurs seniors, tous les joueurs vétérans, je parle de un tiers, c'est par rapport à tout le club. Enfin, je dis un tiers, maintenant c'est plutôt un quart, mais il y a un quart, on va dire, de l'ensemble du club qui s'arrête à un moment donné, qui va reprendre derrière, et il y a un quart de nouveaux adhérents qui viennent nous rejoindre. Alors,
ils vont dans d'autres sports, ils vont vers d'autres clubs.
Disons qu'il faut compter aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de débutants et qui viennent s'inscrire pour faire des tests, etc., sur une année, de savoir si le foot va leur plaire, aussi bien en Poussin qu'en Benjamin. Donc après, peut-être que c'est tout simplement un sport qui leur satisfait pas et derrière, après, ils vont dans d'autres sports. Mais on a très peu de départs pour d'autres clubs, en tout cas, par contre.
Bon, vous êtes toujours sur la vague de l'après-mondiale, vous surfez toujours. Il n'y a pas eu de baisse d'effectifs
Nous, on n'a pas connu de baisse d'effectifs. Ouais. Je sais que l'année dernière, il y a eu une augmentation un peu impressionnante sur le nombre d'adhérents et surtout en école de foot. Je crois que la Ligue avait publié ses chiffres la saison dernière, c'était de l'ordre de plus 20% ou plus 25% dans certaines catégories. Nous, on a connu une augmentation constante, en fait. On n'a pas été plus surpris que ça, mais on n'a pas non plus une vague énorme. C'est-à-dire qu'on a eu une petite augmentation, c'est vrai, mais c'est la même que cette année, par exemple.
Et en 98, ça a été facile, parce que je sais qu'il y a des clubs qui n'ont pas pu, malheureusement, accueillir tous les nouveaux pratiquants.
C'est bizarre, parce que la saison dernière, il y a vu une augmentation augmentation plus conséquente au niveau 98. National. Ouais. Mais par contre, nous, au niveau de notre club, c'est en 98 qu'effectivement on avait une augmentation impressionnante. Donc on avait su faire face parce que, comme je vous dis, on a beaucoup d'éducateurs et beaucoup de dirigeants. Maintenant, tous les clubs peuvent pas le faire. Alors maintenant, je crois que la Ligue maintenant essaye d'encadrer les clubs qui ont beaucoup de soucis en confiant les éducateurs par moment. Mais c'est vrai que tout le monde peut pas le faire. Hein.
Un bon parcours en coupe, ça vous plairait, Cyril, pour le FC Valais?
Parce que
trop chaud quand même, il y a une image.
Comme je leur dis souvent aux garçons, moi c'est pas forcément mon objectif prioritaire. Maintenant, c'est vrai que la coupe crée beaucoup plus de liens entre les joueurs, ça déchaîne les passions, ça permet de se confronter à des équipes qui sont dans des divisions supérieures, et donc de se surpasser et donc de progresser. Donc quelque part, j'y suis quand même un petit peu intéressé. Donc là, on est qualifié pour le 8e de finale. Ça veut dire qu'il reste pas 50 matchs, il en reste 4 pour aller au bout. Donc ça permet en plus, pareil, de fédérer derrière une équipe qui est en train d'aller de faire un parcours plus loin, derrière avec les enfants qui viennent voir jouer l'équipe, s'il y a un déplacement, de le faire ensemble, pourquoi pas dans un bus, etc. Donc non, moi je suis plutôt...
Vous parlez beaucoup aux joueurs en tant qu'entraîneur avant les matchs?
Je parle trop apparemment.
Alors vous, au contraire, chacun à sa place, vous dites rien, parce que un entraîneur c'est aussi un psychologue.
Je pars du principe qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, et on le voit même au niveau de la Ligue 1, etc. C'est beaucoup moral, donc il faut. Après ça dépend le caractère de chaque entraîneur. Il y en a qui sont plutôt positifs, d'autres négatifs, d'autres constructifs, d'autres exigeants. Moi, je suis plutôt exigeant, donc c'est vrai que je parle beaucoup pour donner toujours des ambitions, pour toujours essayer de faire en sorte que le joueur se remette en question en permanence, même quand il est bon. J'essaye toujours de lui dire c'est bien joué, mais
pour pas qu'il s'endorme.
Donc je parle beaucoup parce que effectivement je pars du principe qu'au niveau moral c'est ce qu'il y a de plus important sur un terrain, quelle que soit la qualité du joueur. À partir du moment où il a pas envie, même si c'est Ronaldinho, il fera rien,
Et de remonter des bretelles, des fois des coups de gueule, il y en a aussi, partout.
Ça arrive souvent.
Il y a des murs qui tremblent dans les vestiaires.
Quand ça va pas, il faut le dire. Donc c'est vrai que je le dis. Je préfère toujours prévenir qu'à la fois sanctionner à la fin. Mais j'aime plutôt d'ailleurs, en fait, qu'à la mi-temps, quand ça va pas, au moins ça permet de recadrer, de remobiliser tout le monde. Et puis, puis en général, les deuxièmes mi-temps sont plutôt positives.
L'ambition cette année pour l'équipe Fagnon, l'équipe première, c'est quoi? La montée?
Moi je suis un championnat, c'est pour le gagner.
C'est
non seulement de monter, mais en plus de finir premier. Donc j'espère qu'on finira premier, quelles que soient les circonstances, etc. Maintenant, c'est peut-être cette année que ça reste le plus jouable, on va dire. Ça serait bien, en plus de monter en excellence, ça permettrait de retrouver le niveau qu'on avait en fait au niveau du club il y a une quinzaine d'années, quand on était dans l'élite départementale.
D'accord. Il y a une possibilité de faire un jour un grand club dans la région, parce que c'est vrai que pour l'instant, que ce soit Rambouillet, un club phare, un club icône, comme il y a eu dans l'Essonne il y a quelques années.
Rambouillet, en fait, c'est un peu plus loin peut-être, mais c'est vrai que si je prends l'exemple du club de Manny, il y a 2-3 ans, on avait failli faire une fusion, et ça s'était avorté à 2 mois près, etc., parce que quelques dirigeants de Manny n'avaient pas souhaité finalement aller plus loin. Et c'est vrai que ce club-là aurait permis d'avoir au jour d'aujourd'hui 650 licenciés. Et ça change
tout. Ça aurait été immense.
Ça change tout parce que au niveau des infrastructures, Manny a la chance d'avoir des superbes infrastructures. Nous, on a la chance d'avoir beaucoup de joueurs et un nombre suffisant d'éducateurs. Et en fait, l'abondance de talents ne nuit jamais. Donc ça aurait permis de faire un très grand club. Ça, c'est clair. Donc, on a toujours ça sous le coude. Ça, c'est clair et net que si vraiment un jour on a l'ambition de faire un club maintenant régional, ça passera par une fusion, c'est obligatoire.
Et vous êtes aussi pépinière des fois, pourvoyeur pour des grands clubs franciliens? C'est arrivé que des gens du FC Valais aient joué dans des clubs en prêt.
On a des joueurs qui ont évolué chez nous.
Parce que sur Rambouillet, c'est arrivé.
On a des joueurs qui ont évolué chez nous qui souvent on avait une coutume, c'est de les envoyer sur les clubs de Versailles. Donc on a des joueurs qui ont évolué chez nous et qui après d'ailleurs ont évolué à Versailles. Donc c'est un niveau régional, c'est pas non plus national. Donc on n'a pas de joueurs mondialement connus ou nationalement connus qui ont évolué chez nous. Par contre, on a souvent eu des joueurs qui dès que le niveau leur permettait, ont évolué dans des clubs régionaux et qui qui bah voilà ont pu progresser.
Ouais, parce qu'à un moment dans l'Essonne il y avait des bons clubs, il y avait Viry, il y avait Corbeil, il y avait Évry. Peut-être qu'ils auraient pu aller chercher dans le vivier des clubs d'Île-de-France quoi.
Bah, c'est le problème des clubs franciliens, c'est-à-dire qu'on dit toujours qu'effectivement il y a beaucoup de bons clubs franciliens, mais si on regarde plus en détail, c'est anormal pour moi, hein, c'est anormal qu'il y ait que le Paris Saint-Germain au niveau national qui soit à ce niveau-là, alors que derrière tout le monde dit et tous les éducateurs de la DTN maintiennent que effectivement le talent il existe en Île-de-France. Alors pourquoi il y a que des clubs qui sont au niveau CFA?
Et ce qui est pire,
national,
c'est qu'en Île-de-France ils vont signer dans des clubs du sud.
Exactement. Ouais. Ouais. Donc et je pense que c'est surtout parce que les clubs de CFA national ou DH, on va dire, ne regardent pas ce qui se passe un peu en dessous. Et c'est vrai que il y a même des clubs de départementaux, qu'ils soient d'Essonne ou d'Yvelines, qui ont des partenariats avec des clubs de province.
Voilà. Ouais, au Cher, ouais. Voilà. Avec Giroud,
ou
pour
même avec Sochaux, avec Montpellier, des choses comme ça. Et ça c'est aberrant, enfin je me dis normalement en théorie ça serait les clubs franciliens qui devraient justement profiter de la proximité pour faire des passerelles etc. entre clubs, et ça se passe pas, donc c'est plutôt dommage.
Un petit mot sur les activités associées, le foot associé dont Henri Émile nous parlait à Poigny. Bon, le Bishoker, ça s'est pas très bien passé, 6-2 pour l'équipe de France battue.
Oui, j'ai appris ça, oui.
C'est bien, c'est une sorte de foot qui vous plairait ça?
Moi personnellement non, parce que je suis un peu à l'ancienne, donc je préfère le football comme il est pratiqué. Mais c'est bien qu'il y ait du football diversifié un petit peu partout. Il y a de plus en plus maintenant, il y a le futsal aussi.
Oui, alors justement, j'allais aussi en parler. Le futsal, c'est aussi un secteur d'activité qui vous plairait de développer au sein de votre club?
Bah, c'est sympa, c'est super sympa. Je sais que nous on a la chance d'avoir une salle l'hiver, donc on en profite justement pour y aller. C'est vrai qu'au niveau technique, c'est relativement intéressant parce que les joueurs sont constamment avec le ballon. Et le futsal, c'est un minimum de touches de balle, donc un maximum de fluidité, donc c'est plutôt intéressant. Donc c'est bien, dès qu'il y a pas mal de choses qui se passent au niveau du foot, moi je suis plutôt preneur, quoi. Voilà.
Donc vous parliez du Paris Saint-Germain, Ligue 1, bon, on va naturellement rentrer maintenant dans le foot sur un plan national et international. L'éducateur que vous êtes, le fan de foot que vous êtes, le joueur que vous êtes, comment vit-il les matchs de Ligue 1? Ce sont des matchs assez moyens, pour la plupart. Comment vous le vivez, vous?
C'est plutôt décevant, en fait, à chaque fois, quand on regarde. C'est pas pour non plus rajouter encore un coup de marteau, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a vraiment de plus en plus d'équipes qui jouent, surtout pour pas perdre, et c'est le fond du problème. Après, pourquoi, il faut rentrer dans le détail, mais...
Vous n'êtes pas un entraîneur qui concevait une équipe pour ne pas perdre, quoi. Pour marquer des buts et pour gagner.
Alors après, c'est l'éternelle question. Ne pas perdre, ça veut pas dire ne pas attaquer. Voilà, c'est respecter des principes de jeu qui sont effectivement de bien défendre, etc. Mais après dire non, quand on attaque, on perd le joueur, etc. Donc c'est pas trop mon principe. Moi, effectivement, ma philosophie, c'est d'abord ne pas prendre de but, derrière, loin de là. Ça veut dire qu'effectivement, quand on a le ballon, il faut qu'il y ait beaucoup de choses, animation, etc. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde la preuve, c'est qu'il est deuxième, je pense qu'on va y revenir, mais c'est tous les spécialistes, c'est pas une équipe qui prend le ballon du 90e, c'est une équipe qui est relativement recroquevillée, donc elle a la chance de bien se connaître, elle a la qualité de vitesse derrière d'aller contre. Et c'est pour ça qu'elle est performante et qu'elle est deuxième du championnat de France.
Le fait qu'on marque au moins de buts, chaque année, en championnat, on marque de moins en moins de buts, moins de buts que l'année dernière, précédente.
Ça confirme qu'effectivement les équipes viennent.
Les entraîneurs
pour faire,
sont frileux.
Je suis persuadé qu'hier soir, Nancy a dû faire un cri de guerre. Tout simplement, voilà. Ouais. Ils ont fait 0-0, ils sont contents, ils ont pris un point. Alors, il y avait eu ce débat-là il y a quelques années, quand on était à l'époque sur la victoire à 2 points et le nul à 1 point et la défaite à 0. Quand ils ont mis la victoire à 3 points, ils se sont dit maintenant ça va peut-être inciter les équipes à remporter la victoire. Toujours pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Marquer plus de 4 buts et puis on marque un point de plus.
Les points de bonus, peut-être, je sais pas.
Ou 3 buts d'écart, comme ça se faisait il y a une vingtaine ou trentaine d'années.
Peut-être qu'il faudra arriver à ça, si c'est 3 buts, on en est loin de toute façon.
Et les malheurs du Paris Saint-Germain, est-ce que ça a des incidences sur les clubs de la région, sur le plan amateur, le fait que, depuis quelques temps, quand même, le club phare de la région se cherche quand même?
Ça va avoir des incidences au niveau des jeunes joueurs, surtout, en fait. Quand les jeunes commencent à avoir un bon niveau et qu'ils sont sollicités par des clubs de province et le Paris Saint-Germain, je pense qu'à la fois ça ne doit pas les inciter. Maintenant, Paul Le Guen, il a une politique qui est de faire jouer des jeunes du centre de formation, donc quelque part ça peut aussi les inciter finalement à les rejoindre.
C'est pour blesser un peu l'amour propre des anciens.
Non, non, je pense
Sarko, que... Sarko, capitaine, à 17 ans,
ouais,
ça...
je pense que surtout, c'est que... C'est un peu titillé, pas pour les blesser, c'est surtout pour créer une certaine humiliation.
Les faire réagir, ouais, c'est
groupe,
ça. Ouais,
voilà.
Ouais, ouais, ouais.
Maintenant, il a raison. Voilà. Tous les spécialistes qui vont, pas au, enfin, vont au Parc des Princes confirment que c'était pas très beau avant et que c'est pas très beau maintenant, mais la différence d'avant et de maintenant, c'est que c'est des jeunes, donc il y a peut-être un espoir en tout cas, alors qu'avant il n'y en avait pas.
Tiens, bon, on va donner les résultats de Ligue 1, je pense que vous les connaissez, mais peut-être que certains de nos auditeurs ne les connaissent pas. Le Mans donc a battu Saint-Etienne 3-2, ça a été un match de pénalty, hein, 3 pénalty dans le match. Hein.
Alors moi j'étais avec mes petits Benjamin hier, donc à Vélizy, donc j'ai pas pu voir le match, mais à ce qui paraît, en entendant un petit peu les différents reporters à la radio, c'était un peu un match de folie, donc effectivement j'ai entendu que l'arbitre avait eu l'importance.
Donc Valenciennes a très largement battu Caen, 3-0. Paris Saint-Germain-Nancy, on en parlait, donc 0-0. Hein, Paris Saint-Germain qui n'a toujours pas gagné au Parc des Princes. Lille-Nice, un partout. Hein, c'est le genre de match à terminer par des machules. Metz donc a été battu à domicile par l'équipe de Lens 2-1. Ça, c'est vraiment une victoire importante pour les Lensois. Hein, dans ce match à 6 points entre très mal classés. Quoi.
Bah, c'est surtout que ça veut dire que Metz, du coup, va être dans une situation très très délicate. Là, ils ont plus cavalé la trompette, en fait. Je pense que maintenant, ils ont un pied. C'est bête à dire, mais même dès la 13e journée, je crois, là, on en est. 14e, on en est. Ils ont un bon pied en D2. Et c'est dommage parce qu'on en est qu'au tiers du championnat finalement. Et là, c'était un match important pour eux. Ils n'arrivent pas à gagner à domicile. Donc c'est dommage. Ouais.
Donc Monaco a battu Strasbourg 3-0. Hein, donc Monaco qui avait pu gagner depuis plusieurs matchs hein, et qui a donc su réagir. Cet après-midi à 18h, il y a Bordeaux-Rennes. Ça, c'est un match intéressant. Lorient-Toulouse. Et à 21h, le gros match, le match choc.
Le grand match. Ouais.
Lyon-Marseille. Bon, assez disproportionné apparemment vu le classement des deux équipes. Hein.
Ouais, disproportionné, ouais. Surtout que, étant un peu supporter de Marseille, c'est pas un match que. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent que, ouais, ils ont pas été ridicules à Porto, mais est-ce que c'est ce qu'on demande à Marseille de pas être ridicule en fait?
Il y a quand même deux erreurs défensives qui coûtent la victoire. Quoi.
Et puis faut pas non plus oublier que dans le jeu, c'est pas très excellent non plus. Donc, je pense que ce soir, ça va être Lyon va marquer. À nouveau le championnat, à mon avis.
Ouais, Lyon a eu un début un peu difficile. Là, maintenant, ils sont bien repartis. On risque peut-être d'assister à un championnat comme l'année dernière où il n'y aura qu'une seule équipe, c'est Lyon. Quoi.
Bah, si je me rappelle des titres des journaux dès le début de championnat, c'était Lyon, ça y est, c'est fini, etc. Et à nouveau, c'est les mêmes qui se ravisent et qui disent que bah, ça y est, Lyon redémarre, etc. Après, il ne faut pas oublier que Lyon avait changé d'entraîneur, qu'il y avait beaucoup de blessés à Lyon en début de saison. Juninho n'était pas à son meilleur niveau. Et maintenant, c'est à nouveau le rouleau compresseur. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, eux aussi arrivent à faire jouer des joueurs du centre de formation, Benzema, Ben Arfa, qui sont deux pépites extraordinaires.
Ouais, ça, c'est sûr que s'ils sont très bien ménagés, ces deux-là, ça promet. Hein.
Bah, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Olas, en tout cas, toujours est-il qu'au niveau de la gestion de son équipe et de son club, c'est le meilleur pour l'instant. Voilà.
Et alors, donc, Marseille, le meilleur match, c'est qu'est à Liverpool, à Anfield Road.
Liverpool, oui, mais en même temps, enfin, tout le monde dit ça, mais s'il n'y avait pas eu Valbuena, est-ce qu'on aurait dit ça?
S'il
n'y avait pas eu Poto à la fin, est-ce qu'on aurait dit ça? Je sais pas. Pour moi, le meilleur match de Marseille, je l'attends. Enfin, je l'ai pas vu, je l'attends. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu une équipe une seule fois dominer outragement son adversaire dans le jeu comme elle a su le faire l'année dernière. Et c'est ça qui est dommageable.
Ouais, vous êtes supporter de l'OM. Qu'est-ce qui peut expliquer cette équipe quand même qui était vantée pour avoir un recrutement qui devait lui faire jouer les premiers rôles en championnat, soit à la 19e place? C'est quoi? C'est des manques de confiance? C'est aussi comme un peu au Paris Saint-Germain, des erreurs de casting, de...
Bah, si je connaissais les causes, je pense que je serais à l'heure actuelle en train de l'OM. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la tête, ça c'est clair. Quand on regarde, ils ont recruté des joueurs et tout le monde effectivement avait dit, bah voilà, c'est un recrutement relativement intelligent, c'est intéressant, etc. Et quand on regarde le recrutement et si on prend individuellement chaque joueur, je pense notamment à un joueur comme Karim Ziani, il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter. Un joueur comme Djibril Cissé, caractère fort, tout le monde considère maintenant qu'il affaiblit l'équipe plus, ouais, plus qu'il la renforce.
Puis apparemment le public le prend en grippe. Bien, c'est public qui est versatile quand même. Hein,
ouais, enfin, bon, il change pas forcément, ouais, non plus les choses, quoi. Ouais. Enfin, il s'arrange pas lui-même. Il arrange pas, ouais, on va dire, son image en tout cas.
Ouais. Donc le classement, on va, même s'il faudra attendre les matchs d'aujourd'hui, hein, Lyon 31, Nancy 28 et 3e donc Rennes 24 devant Le Mans 23 et Bordeaux 5e 22. Et puis donc en bas de classement, on a donc eh bien Paris Saint-Germain maintenant qui se retrouve 12e à égalité avec Toulouse, Lorient, Lens et Caen. Et ensuite Auxerre 17e, 14 points, 18e Sochaux 13 points, 19e Marseille, donc on a dit 11 points, et 20e donc Metz, très largement effectivement lâché, 7 points. Vous n'êtes pas très optimiste pour les Coupes d'Europe cette année?
Bah, il suffit de voir les résultats de jeudi. Il suffit de voir les résultats de jeudi. Ouais. Quand on regarde que sur les 3 matchs, je crois que seul Bordeaux a gagné.
L'UEFA, c'est pas du haut niveau.
Ça veut tout simplement dire, après on essaie d'expliquer 50 milliards de raisons, tout simplement c'est parce que les clubs sont peut-être moins forts que les autres, tout simplement. On dit que le championnat français est le 5e d'Europe ou le 4e ex aequo avec l'Allemagne, etc. Moi, je le vois même en dessous. Je suis pas persuadé que les clubs français puissent gagner contre une équipe de milieu de tableau en France. Gagnera pas forcément contre une équipe de milieu de tableau aux Pays-Bas ou au Portugal, etc. La preuve, c'est jeudi en Coupe d'Europe. Seul un club français gagne. Je crois que c'est Rennes qui est déjà en difficulté. Ouais, ouais.
Toulouse qui est pratiquement éliminé.
Voilà, c'est pas. Enfin, après, faut pas non plus se dire c'est l'adversaire, c'est pas évident, etc. Faut simplement se dire que les clubs n'ont pas le niveau.
Et puis ce qui est sidérant quand même, c'est que on sent pas des clubs très concernés par quand même la Coupe UEFA, ce qui est une Coupe d'Europe quand même. Hein.
Bah c'est ça qui est encore. Avant, il y avait, je sais que en France, la Coupe d'Europe avait. Engendrer beaucoup de passion au niveau ne serait-ce que des supporters, etc. Et les clubs français se surpassaient à l'idée d'affronter parce qu'ils se mettaient dans une position d'infériorité. À l'heure actuelle, c'est à force de rabâchage, je pense que les clubs français, enfin les joueurs français se mettent dans une situation de supériorité. Et donc ils font le strict minimum et donc comme je disais tout à l'heure, en fait c'est une histoire de ce qui se passe dans la tête. Et donc bah ils sont bousculés justement par des joueurs surmotivés à l'idée d'affronter des clubs français et derrière ils n'y arrivent pas et voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas prêt effectivement d'en gagner une autre, je pense.
Allez, je vais vous faire mettre un casque à condition qu'il y ait un jack, mais comme il n'y a pas de jack donc on ne pourra pas mettre le casque parce qu'on a donc, on parlait du foot des villages, eh bien on a justement un des responsables d'un nouveau club dans l'Essonne, c'est Saint-Cyr-sous-Dourdan. Je crois que c'est Monsieur Texera. Monsieur Texera, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, comment ça se passe exactement? Parce que là, je crois que vous êtes en plein match, là.
On est en plein match. On est en pleine mi-temps, là. Et puis, ça se passe bien. Bon, on rencontre les premiers, qui sont pas faciles. Et il y a un partout.
Oui, alors on va rappeler, hein, vous étiez venu l'année dernière, hein, donc,
exact, oui.
Donc à nos studios, pour eh bien, nous parler de votre projet de création d'une équipe de foot, hein, sur Saint-Cyr-sous-Dourdan. Vous avez attendu un petit moment avant d'avoir les autorisations, hein, puisqu'il vous a fallu attendre presque une saison. Ça y est, vous avez les autorisations depuis le mois de septembre.
On a les autorisations depuis le mois de septembre, donc voilà. On en est à notre 6e match et un match de coupe, donc 7 matchs au total. Et c'est vrai que ça a mis du temps, parce que bon, pour les petits villages comme ça, on n'a pas tout. Les terrains ne sont pas trop... c'est pas vraiment des terrains de foot, quoi, qui ont été conçus. Donc on a trouvé pas mal de sponsors, on a pu s'acheter des buts, on a pu marquer, tracer le terrain, et voilà. Et on a un superbe terrain maintenant.
Alors vous êtes combien actuellement à Saint-Cyr, là, depuis le début de saison?
Il y a 16 joueurs. 16 joueurs, il y en a toujours 5 dirigeants, quoi.
Donc pour participer à un championnat du dimanche matin, c'est ça, hein?
C'est le championnat du dimanche matin, c'est ça, de l'Essonne, ouais, en deuxième division.
Alors 16 joueurs, ça fait pas un banc énorme quand même, hein?
Si, c'est bien, parce qu'à chaque fois, bon, on les convie pas tous, hein, on prend toujours deux voire trois remplaçants. Donc on a toujours besoin de 13-14 joueurs, quoi. Hein, parce qu'il y en a toujours un, deux qui sont pas là pour des raisons personnelles et donc on arrive toujours là. Ils sont 13, donc il y a deux remplaçants, c'est pas mal, quoi, parce qu'on les fait tourner. Et ce qui est bien dans les championnats comme ça, c'est que on peut faire sortir un joueur et on peut le faire de nouveau rentrer, quoi.
Et alors donc quelles sont les équipes que vous affrontez?
Là en ce moment c'est l'Issois. On a rencontré Dissous, les jeunes d'Auvers, il y a Grigny, Attaque FC, ils sont pas loin de dissous, c'est des magasins Attaque en fait qui ont monté une équipe quoi, avec les jeunes qui travaillent dedans. On a Dourdan Sport, une équipe de Dourdan, qui sait qu'on a d'autres encore. Il y a Montjon, je crois. Montjon, oui. Mmh. Et voilà, il doit y en avoir d'autres, je les ai pas vraiment en tête.
Et alors, d'où viennent vos joueurs? Ils viennent de Saint-Cyr ou ils viennent des villages avoisinants?
Non, oui, on a quand même le noyau le plus gros des joueurs qui viennent de Saint-Cyr quand même, des copains de Saint-Cyr et des jeunes qui jouaient avant à Saint-Arnoux dans un village juste à côté. Et on a des jeunes qui viennent des petits villages aux alentours, genre Rochefort, Angervilliers.
Voilà. Parce que vous avez quand même des clubs importants dans le coin d'Ourdan, Angervilliers, ça vous enlève un peu de monde quand même.
Oui, voilà. Ça nous enlève un peu de monde. On a pu, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé des sponsors et on a pu, pour les jeunes, leur faire de la licence gratuite.
Ah, d'accord.
Ils jouent chez nous et nous, le club, on paye leur licence. Parce que partout où on va, la licence, c'est à peu près 120 euros. Quoi. Et comme c'est des jeunes qui, pour la plupart, sont à l'école, parce que c'est une équipe très jeune, hein, moyenne d'âge, je crois que le plus vieux doit avoir 24-25 ans. Donc, vous voyez, le plus jeune a 18 ans. Mmh. Et donc, la plupart sont encore à l'école ou n'ont pas beaucoup de finances. Pour ça que, d'ailleurs, hein, parce que ça reste quand même un sport où il y a des licences dans des villes où ça arrive à 120 euros, hein, voire 150 euros pour jouer au football. Donc, alors qu'avant, c'était vachement plus abordable, quoi. Et là, on a décidé, voilà, on a trouvé un sponsor qui est à côté, Man Rénov, une entreprise de maçonnerie, qui nous a financé les licences des joueurs, voilà.
D'accord, donc on peut venir encore vous rejoindre, je suppose que...
Oui, on peut encore prendre des joueurs, voilà, qui n'aient pas eu de licence, ou alors il faut des lettres de sortie de leur club, et on a encore le droit même à des jokers, parce que dans des trucs comme ça, on a le droit à prendre des jokers, c'est-à-dire même des joueurs qu'on signait ailleurs peuvent venir nous rejoindre. Leur club leur fait une lettre de sortie, bon ben ils demandent en général, ils demandent le remboursement de licence. On l'a même pris en compte ça, nous, pour pouvoir avoir d'autres, quoi. Et on voudrait monter à 18 joueurs à peu près.
D'accord. Vous avez combien de séances d'entraînement par semaine? Parce que vous vous retrouvez aussi en semaine, hein?
Deux. On a deux séances d'entraînement par semaine.
Donc un terrain tout neuf, vous l'avez dit, hein, en bas de Saint-Cyr, et puis des vestiaires juste à côté?
Oui, voilà, des vestiaires qui sont dans la salle municipale. Une nouvelle salle municipale qui a été construite il y a à peu près 6-7 ans, Saint-Cyr, et où il y a vestiaires arbitres, vestiaires visiteurs et vestiaires locales.
Et dans vos matchs, vous avez déjà des curieux qui viennent vous voir? Déjà quelques groupes de supporters?
Là, sur le bord, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 personnes au total qui viennent nous voir de Saint-Cyr.
D'accord, bah c'est le football du dimanche matin. Vous restez avec nous parce qu'on a un éducateur du FC Valais 78, hein, oui. Entraîneur-joueur en même temps, qui voulait peut-être vous dire un petit mot, Cyril, oui, le foot des villages.
Bah, c'est surtout bonne chance pour son match, parce que je crois qu'il y en a partout, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Oui, surtout qu'ils essayent de gagner, quoi. Voilà, c'est juste ce que je peux lui souhaiter.
Mm-hmm. Très bien, merci beaucoup, monsieur Texera. Et puis en tout cas, bah, continuez à nous donner de vos nouvelles. Hein,
donc, merci beaucoup.
Voilà. Et puis longue vie donc, à ce nouveau club de foot de l'Essonne, donc Saint-Cyr sous Dourdan. Hein. C'est juste aux confins des Yvelines, c'est juste à côté de Rochefort en Yvelines. Merci, monsieur Texera.
Merci beaucoup.
Voilà, merci, au revoir.
Merci bien, au revoir.
Voilà, donc pour le foot des villages, hein, c'est bien que des clubs comme ça voient le jour et puis finissent par obtenir les autorisations, et notamment donc des vestiaires et des terrains de foot. Voilà, on va marquer une petite pause musicale et puis ensuite on va poursuivre avec le championnat et l'équipe de France aussi, parce que on a un week-end important la semaine prochaine. Hein. Écosse-Italie va être déterminant pour nous.
Exactement, ouais.
Allez, on y va, la musique. Voilà, 10h50, donc on a parlé de Ligue 1, on a parlé naturellement des Coupes d'Europe. Cyril, l'arrivée de Michel Platini à la tête de l'UEFA, c'est une bonne chose pour le foot, parce qu'il est resté encore un joueur, Platini, hein, dans l'âme.
Bah, c'est une bonne chose pour le foot français d'abord.
Ouais,
Maintenant, après, est-ce que les grands joueurs sont des grands hommes, on va dire, de bureau, je sais pas. dans ses idées, bah, il a été élu par rapport à ce qu'il avait mis sur le papier, donc s'il l'applique, a priori, ça devrait satisfaire tout le monde, parce que sinon, ça nous aurait choqué dès le départ. Sa réforme des Coupes d'Europe, là, je suis pas forcément pour, voilà. Ouais. C'est vrai qu'il est tellement joueur qu'il veut essayer de faire en sorte que les plus petits soient présents dans les Coupes européennes. Maintenant, moi, la formule de Ligue des Champions, qui est la seule actuellement, je trouve que c'est la meilleure formule qu'on ait eue. Voilà, ça permet de voir des super matchs. Est-ce qu'il y aurait autant de monde à la télé s'il y avait un Lokomotiv Moscou en quart de finale contre Chelsea? Je sais pas, j'en suis pas persuadé.
Parce qu'avant, c'était ça. Avant, on arrivait, il y avait des équipes qui arrivaient en quart de finale en ayant deux matchs assez faciles. Hein. Ils tombaient en 16e puis en 8e.
Bah, il suffit que des petits se rencontrent jusqu'au quart ou demi et on se retrouve avec des petits. Alors, c'est la beauté du sport. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, c'est bien. Maintenant, est-ce que les gens regarderaient ces matchs-là? Je sais pas. J'en suis pas persuadé en tout cas.
Les droits télé, est-ce que ça vaut le prix qu'on veut leur donner?
Bah, si les chaînes payent autant pour les acquérir, ça les vaut. Sinon, ils les payeraient pas, je pense. Maintenant, si ça peut permettre de... Alors, c'est vrai que les clubs français n'arrêtent pas de dire à l'actuel qu'effectivement, la législation ne leur est pas bénéfique par rapport à plein de choses, par rapport à l'Angleterre. Mais il ne faut pas non plus oublier que la France, c'est après l'Angleterre, c'est le pays qui a le meilleur droit télé. Alors, après... Que fait des clubs avec cet argent-là? C'est une question à se poser parce que c'est vrai que les mercato sont pas forcément extraordinaires à l'heure actuelle. Alors c'est vrai qu'un joueur français payé 10 francs, il en coûte 20. Donc ça doit être forcément un poids pour recruter des bons joueurs. C'est vrai qu'au niveau des droits télé, voilà, moi ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup d'audience en France. Si les chaînes mettent autant d'argent, c'est qu'elles ont aussi quelque part un rendement par rapport aux sponsors, par rapport à la pub qui y a derrière.
C'est vrai que Canal joue quand même sa survie sur ce foot. Canal.
Je suis pas convaincu que si Canal n'avait plus les droits de télé, il y aurait autant d'abonnés en tout cas.
Et alors, un petit mot quand même sur Clairefontaine. Les deux 14 que vous êtes, il y a un outil qui est fabuleux. Vous y allez souvent?
Nous, on y va parce qu'en fait, le district des Yvelines fait des formations d'éducateurs souvent là-bas. Des réunions aussi. Souvent, on a des réunions avec l'arbitrage.
Il y a un super centre médical en plus.
Il y a un nouveau centre médical qui a été créé. En plus, on a quelqu'un du club qui est infirmier là-bas. C'est juste une petite astérisque. Mais c'est intéressant de se retrouver là-bas. On a aussi nos débutants qui vont faire la journée nationale à cet endroit-là. Encore dernièrement, j'y étais parce qu'il y avait une réunion sur l'amicale des éducateurs dont je fais partie avec Jean-Louis Leplat et on s'est retrouvé là-bas.
On connaît bien, qui vient souvent à notre micro.
Exact. Qui a beaucoup de casquettes.
Il vient pour toutes les casquettes.
Exactement.
Il vient nous en parler
C'est un outil, c'est une chance. C'est une chance incroyable. En plus, c'est dans le sud des Yvelines. Nous, on est à une vingtaine de kilomètres. Donc c'est un outil incroyable.
Alors Clairefontaine, ça nous amène naturellement à l'équipe de France. Il y a un match d'abord déterminant la semaine prochaine entre l'Écosse et l'Italie, parce qu'en fonction de ça, le déplacement en Ukraine, ça va pas être la même chose.
Je crois qu'effectivement, on est quelque part redevenu supporter italien. On va regarder, voilà, comme tout passionné, on va regarder ce qui se passe là-bas. Mais c'est clair que si l'Écosse venait à l'emporter, le match de l'Ukraine va complètement être différent, ça c'est évident.
On peut quand même imaginer les Italiens éliminés, privés de Coupe du Monde, parce que souvent, ils aiment bien être dos au mur. Ce sont des situations qu'ils aiment bien quand même.
Ils aiment bien être dos au mur, mais la différence entre les Italiens et les Français, c'est que les Italiens, s'ils perdent en Écosse, ils auront la possibilité de recevoir les îles Faroé. J'imagine qu'ils prendront 3 points. Et après, ils seront dépendants de notre résultat. Donc, quoi qu'il arrive, nous, on est maître de notre sort. Je pense que les Italiens, ils ont deux possibilités pour se qualifier, nous on en a qu'une. Et en plus, je pense qu'on serait content de savoir que l'Italie gagne en Écosse pour être relativement soulagé avant d'aller en Ukraine.
Si l'Italie gagne en Écosse, c'est tranquille. On va soulager en Ukraine. L'Ukraine risque quand même d'être démobilisée. On sait que ils sont hors du coup. On sait que ces équipes-là ont de très bons footballeurs, mais souvent quand il n'y a plus d'enjeu, ils sont un peu démobilisés. Ça peut être un avantage.
Ouais, mais ils reçoivent l'équipe de France.
Ouais, c'est ça.
Je pense que tout joueur de football qui reçoit l'équipe de France, qui faut pas l'oublier, finaliste de la Coupe du Monde. Il y aura du monde dans le stade et un joueur qui se retrouve sur l'actangle vert et qui a du monde dans le stade et en face il a les bleus, il va être quelque part mobilisé. Donc moi j'y crois pas trop à ça.
Ouais. Alors, on peut pas imaginer l'équipe de France ne pas aller à l'Euro quand même.
On peut pas l'imaginer, mais ça peut arriver en tout cas.
Oui, bien sûr, ça peut arriver.
On était un peu dans la même optique il y a une quinzaine d'années,
ouais, contre la Bulgarie,
en 93, où tout le monde nous voyait déjà aux Amériques. Tant que les points sont pas acquis, faut pas anticiper, on va regarder Écosse-Italie, on va espérer que. Et puis derrière, il faudra aller en Ukraine et ne pas perdre. Je crois que c'est le minimum syndical. Hein.
Mm-hmm. Vous êtes un fan de Dominique ?
Je suis pas fan, mais il a que 4 défaites en je sais pas combien de matchs.
Sûr, parce que bon, comme tous les entraîneurs, il est controversé, hein, mais les résultats plaident pour lui, même si il lui manque à chaque fois le petit quelque chose à l'arrivée pour faire un palmarès.
J'ai jamais connu un sélectionneur plébiscité. Même Platini à l'époque en 92, quand l'équipe de France a fait son Euro et que c'était un fiasco, il s'est fait pas mal la mine dans la presse. Et heureusement qu'il a su rebondir tout de suite avec la Coupe du Monde et son organisation. Si je me souviens bien, Jacquet était le plus mauvais des sélectionneurs avant la Coupe du Monde 98. Donc voilà, moi après je suis pas fan de Domenech par rapport à ses propos. C'est vrai que souvent il est relativement arrogant et je le trouve pas
provocateur.
Il est un peu provocateur. S'il est avec la presse, ça me gêne pas. S'il est avec l'adversaire, souvent nous éducateurs, on nous sanctionne dès qu'il y a le moindre écart. Je suis pas convaincu que dans ses propos, dans sa manière de respecter l'adversaire ou les supporters ou les joueurs, ça soit un exemple à montrer sur les enfants. Il faut pas oublier que ce garçon là prétendait être à la DTN, donc être l'exemple des éducateurs. Et pour moi, il ne l'est pas forcément dans ses propos. Maintenant, après, techniquement parlant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les résultats sont en sa faveur. Vice-champion du monde, en passe d'être qualifié, que 4 défaites. Comme tout entraîneur, j'aime pas perdre. Et ben voilà, moi, je serai à sa place, je serai plutôt fier de mon bilan. Après, voilà, dans la forme, c'est à revoir.
Jean Rouillet au niveau de la DTN.
C'est une bonne chose. Je pense que même avec les années de recul, ces années d'expérience, etc., faut pas oublier qu'il l'était quand ça s'est mal passé justement. Il était sélectionneur et DTN en 93. Alors pareil, il avait eu des propos, je pense que c'est lié à l'inexpérience.
Avec Ginola,
voilà, c'était un crime contre l'équipe de France de tirer un corner directement, alors que c'est un fait de jeu, donc on peut pas se permettre de dire ça 24 heures après un match. Maintenant, voilà, je pense que c'est vraiment la meilleure chose qui pouvait arriver dans le giron fédéral. Je sais pas comment il est situé, quelles sont ses idées exactement, mais en tout cas, je pense que c'est un passionné de football et c'est un passionné de la formation aussi. Donc, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'équipe de France.
Alors, c'est sûr que dans le giron fédéral, on souhaitait quand même le retour de Jean Rouillet, hein, plus qu'une fonction cumulée entraîneur DTN.
Je sais que Morland, qui a fait l'intérimaire avant Rouillet, a un peu décrié ce qui s'est passé. Je l'ai entendu dernièrement dire des propos un peu blessants par rapport à toute la fédération. Alors comment ça s'est passé, je sais pas. Quelle est la volonté? Est-ce que c'est que la volonté du comité directeur de la Fédé ou est-ce que c'est vraiment une volonté de tous les éducateurs? Je sais pas. Enfin moi, en tout cas, en tant que simple éducateur du FCV, c'est ce que je préférais. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va être une bonne chose? Comme toujours, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire.
Très bien, Cyril. Merci en tout cas d'être venu donc ce matin. Vous avez un site internet?
Oui. Alors il y a un site internet. Donc déjà merci pour votre invitation, mais il y a un site internet qui est http://fcv78.sporama.fr et sur lequel en fait c'est un nouveau site qu'on a créé par l'intermédiaire de notre vice-président et sur lequel à chaque fois les résultats, les résumés de match, les comptes rendus sont publiés.
Très bien, merci, à très bientôt,
à bientôt.
Bonne saison pour le FC Valais. Voilà pour cette émission bien chargée. On vous laisse maintenant en musique parce que c'est commémoration du 11 novembre. Aujourd'hui il n'y a pas de Radio Village et on se retrouve la semaine prochaine. Tribune Sport, Tribune Food, bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité depuis bientôt presque 20 ans. Bye bye.
Bon dimanche, RVE, il est 11h.